Karine Joriot.
La Suisse va livrer 3 machines de déminage pour l'Ukraine. La présidente de la Confédération, Viola Amert, a annoncé aujourd'hui à Lausanne le financement de ces systèmes fabriqués par une entreprise suisse. L'entreprise travaille avec l'ONU et plusieurs ONG comme la Fondation Suisse de Déminage. Elle s'attend à ce que 100 de ces machines soient utilisées d'ici 2025 en Ukraine. La Suisse a prévu 100 millions de francs jusqu'en 2027 pour le déminage dans ce pays. Volodymyr Zelensky est attendu aujourd'hui à Bruxelles pour défendre son plan pour la victoire devant les dirigeants européens et les ministres de la défense de l'OTAN. Le président ukrainien en a révélé hier les contours de son plan devant le Parlement à Kiev. Il comprend notamment une levée des restrictions dans l'usage des armes que les Occidentaux fournissent à l'Ukraine ou encore le déploiement sur le territoire ukrainien d'armes de dissuasion non nucléaire. Pour l'heure, aucune de ces demandes n'a rencontré de soutien du côté des alliés qui se réunissent jusqu'à demain à Bruxelles. Au Bangladesh, l'ancienne première ministre Sheikh Hasina est sous le coup d'un mandat d'arrêt. Elle avait fui en Inde au mois d'août, renversée au terme de plusieurs semaines de manifestations. Le tribunal a ordonné son arrestation et sa comparution le 18 novembre, a annoncé le procureur en chef du tribunal international des crimes du Bangladesh. Améliorer la situation des enfants et des jeunes qui vivent dans la pauvreté. Voilà l'objectif des cantons. Une étude pointe des lacunes et des prestations insuffisantes dans la couverture du minimum vital. La conférence des directeurs et directrices cantonaux des affaires sociales, la conférence suisse des institutions sociales et l'initiative des villes pour la politique sociale tenaient une conférence de presse aujourd'hui. Ils ont souligné que le taux d'aide sociale chez les moins de 18 ans s'élevait à 4,8% en 2022, soit la valeur la plus élevée parmi toutes les classes d'âge. L'étude recommande notamment d'améliorer le conseil et l'accompagnement. Elle démontre également qu'il est nécessaire d'agir au niveau du montant des prestations. Les exportations horlogères suisses ont dégringolé en septembre. Elles affichent même le plus grand recul mensuel de l'année, moins 12,4% par rapport à septembre 2023. C'est ce qu'a communiqué aujourd'hui la Fédération de l'industrie horlogère suisse. La Chine et Hong Kong ont été responsables des 2/3 de ce recul. Les États-Unis, en revanche, ont renforcé leur place de premier débouché pour l'horlogerie suisse avec une hausse de 2,4% des exportations. La population bernoise votera le 9 février prochain sur l'initiative des Verts intitulée « Initiative solaire bernoise », a annoncé le conseil exécutif aujourd'hui. L'initiative entend instaurer une obligation d'installer des panneaux solaires sur les nouveaux bâtiments et avec une période transitoire sur les édifices existants si les toits et les façades s'y prêtent. Le Grand Conseil, qui estime que le projet va trop loin, propose un contre-projet avec notamment l'abandon de l'obligation d'installer des panneaux solaires lors de la rénovation des bâtiments. Le temps, aujourd'hui, on devrait avoir droit à de belles éclaircies après dissipation des grisailles matinales. Ce sera plus couvert sur le Haut-Valais et la région du Simplon. Côté température, maximum 17 degrés cet après-midi jusqu'à 23 en Valais sous l'effet du Föhn. Demain, très nuageux avec des précipitations fréquentes en première partie de journée, puis développement d'éclaircies.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Avec la RTS, valorisons le 7e art. Du 1er au 10 novembre, le Geneva International Film Festival célèbre 30 ans d'audace et de découverte. Plongez dans un carrefour créatif où cinéma, séries et œuvres immersives se rencontrent pour repousser les limites de l'expérience cinématographique. Un événement unique en Suisse avec plus de 100 œuvres électrisantes et des talents prestigieux, dont la superstar américaine Ava DuVernay. Plus d'informations sur gif.ch. Découvrez Winter Palace, la série événement de la RTS en collaboration avec Netflix, en avant-première le samedi 2 novembre au GIF. Tribu, Julien Magnolet.
Boire un petit café pour lancer sa journée, pour discuter avec des amis ou terminer le repas, voilà un rituel qui est bien ancré dans notre quotidien. Depuis quelques années, on voit se multiplier dans les villes l'ouverture de cafés branchés qui se focalisent sur le café de spécialité. Ce café se veut à la fois très haut de gamme et en général soucieux de la traçabilité, de l'impact social et environnemental du produit. Alors comment expliquer le succès de ces cafés de spécialité? À quelles attentes répondent-ils? Est-ce que cette manière de consommer le petit noir a des effets sur la production de café au Brésil et ailleurs? Bonjour Marie Sigrist.
Bonjour Julien.
Vous êtes anthropologue, chercheuse au sein du groupe Transition agroécologique de l'EPF de Zurich et vous travaillez sur les questions sociales et environnementales dans les chaînes de valeur du café. Merci de m'accueillir chez vous, Marie Sigrist. Alors comment est-ce que vous expliquez cette multiplication de tous ces lieux branchés qui vendent du café de spécialité? Alors c'est en Suisse, mais aussi un peu partout en Europe et aux États-Unis.
Alors je pense que déjà il y a plusieurs phénomènes. Je pense que c'est la rencontre de l'offre et de la demande. Clairement, ça, c'est un objet de consommation et ça accompagne l'essor de la troisième vague du café de spécialité, qui est assez récente, qui est à peu près une dizaine d'années. En tout cas, là où j'ai travaillé au Brésil, ça entre 6 et 7 ans. Ça s'est développé dans d'autres pays aussi un peu avant. Mais c'est une culture du café qui est liée à sa qualité. Donc la recherche vraiment d'une certaine gourmetisation autour du café, donc avec la recherche de certains arômes, de fragrances, de saveurs, qui accompagne quelque part le phénomène de l'œnologie aussi, ou de produits qu'on associe vraiment à l'élitisme culinaire, et aussi avec des valeurs d'éthique et de recherche de durabilité, donc avec un souci pour le social, pour l'écologie. Alors, je pourrais y revenir un peu plus tard, mais c'est tout un discours qui est porté aussi derrière ce café de spécialité, mais on se rend compte qu'il reprend certaines caractéristiques du café plus commoditif, du café qu'on connaissait jusqu'alors.
Et sur les lieux eux-mêmes, est-ce que vous êtes anthropologue, vous êtes spécialiste du café, mais sur les lieux eux-mêmes, est-ce que ça correspond, je sais pas, est-ce qu'il y a un effet post-Covid ou est-ce que ça date d'avant?
Alors, en effet, il y a eu un essor après la pandémie de Covid qu'on retrouve aussi avec d'autres produits, comme par exemple avec la bière. Il y a eu plein de micro-brasseries qui ont fleuri ici et là dans les villes. Les bars à café de spécialité, enfin les bars à café, parce qu'en fait, il n'y a pas aussi un terme générique. On peut trouver l'appellation le café du coin, le coffee shop, le bar à café, mais dans le fond, ce qui caractérise ces lieux, c'est la dégustation de café de spécialité et de tous ses dérivés, donc avec des boissons à base de lait, qui rejoint là le café de la deuxième vague qu'on trouvait donc avec les Starbucks, mais avec un côté toujours assez élitisé, si je puis dire, ou gourmetisé du café.
Oui, parce qu'il fut un temps où on arrivait au bistrot, on disait un café, le café venait. Maintenant, dans certains de tes bistrots, on demande un café, il faut répondre à 5, 10, voire 15 questions avant de recevoir quelque chose, entre le flat white avec du lait d'avoine, le cappuccino fait je ne sais comment. Ça, voilà, c'est ça que vous appelez la deuxième vague, cette espèce de toutes ces questions auxquelles il faut répondre avant d'avoir son café, c'est ça?
C'est ça, exactement. La deuxième vague, ça s'est développé dans les années 2000 quand même, avec par exemple l'essor du Starbucks. Là, clairement, c'est cette chaîne qui a lancé tout ce concept de dérivés autour des boissons de café. Mais les bars à café de spécialité, en fait, reprennent cette offre-là avec ce café de spécialité qui est un café qui a une note de plus de 80 points sur 100. Il faut savoir que tous les cafés sont notés, tous les échantillons de café qui circulent dans le monde, sur le marché, reçoivent une évaluation à tous les moments de la chaîne du café, donc à toutes les étapes. Et ceux qui ont une note de plus de 80 points, donc qui évaluent la fragrance, l'arôme, la saveur, sont des cafés qui sont exportés plutôt dans les nords globaux, donc aux États-Unis, Canada, Europe, Japon aussi, beaucoup, et qui sont vendus à des prix beaucoup plus chers que le marché traditionnel, le marché lambda. Et c'est notamment ces cafés qu'on retrouve dans ces bars à cafés de spécialité.
Quelque chose qui me marque, alors ça peut se voir dans une ville comme Lausanne, mais aussi ailleurs, c'est que souvent ces lieux branchés qui offrent du café de spécialité, leur nom de lieu est en anglais. Est-ce qu'il y a quand même un peu une Brooklyn vibe, cette idée que peut-être ça viendrait des États-Unis, cette mode de ces cafés branchés qui offrent des cafés de spécialité?
Alors, on rapporte ça plutôt à l'Australie, en fait, qui aurait lancé le développement des cafés de spécialité il y a déjà ça une dizaine d'années. Mais en effet, c'est une expérience de consommation internationalisée et qui accompagne aussi cette troisième vague du café de spécialité, parce que cette classification et évaluation des grains de café, elle est développée par la Specialty Coffee Association, qui est basée aux États-Unis et qui a standardisé cette évaluation sur le plan international. Donc en fait, un évaluateur des grains de café au Brésil suit la même fiche d'évaluation qu'un évaluateur en fin de chaîne dans une torréfaction en Suisse, par exemple.
Torréfaction, vous avez dit ce mot, c'est aussi intéressant parce que il y a beaucoup de gens ici maintenant en Suisse qui se mettent à faire de la torréfaction. Ça, c'est aussi nouveau, c'est un peu comme les microbrasseries et ça va dans ce processus d'offrir un café de qualité.
En effet, on parle d'ailleurs de micro-torréfaction. Donc c'est de la torréfaction à petite échelle. Parfois, c'est des torréfacteurs, ils vont torréfier juste un jour par semaine, voire quelques heures par semaine. Et ensuite, ils distribuent leur café dans des magasins qui revendent donc le café de spécialité, ou qu'ils le revendent sur place avec un service du café, une préparation, et c'est là les bars à café de spécialité. Puisque les bars à café, ils ne font pas que servir du café, ils vous vendent aussi du café. Des fois, il y a 3-4 paquets différents, 3-4 offres différentes, avec tous les dérivés aussi, certains ustensiles, et aussi des dérivés de boissons qui auraient le même effet que le café. Donc, je pense par exemple à des kombucha, donc qui peuvent être des boissons froides aussi, il y a du matcha, du thé, enfin, il y a plein de dérivés possibles dans ces lieux-là.
Est-ce que, pour avoir droit à l'appellation, je ne sais pas s'il y a une appellation café de spécialité, est-ce que la torréfaction fait partie du processus? Est-ce qu'on peut faire venir du café vert, des grains verts et les torréfier soi-même, ou est-ce qu'il y a un processus spécifique à suivre?
Absolument, c'est tout. En fait, l'évaluation du café de spécialité, elle est faite à partir de grains de café torréfiés. Donc la torréfaction entre en effet dans l'évaluation, et ça fait partie du processus de cette discipline un peu qui se veut aussi gourmetiser, qu'on appelle la caféologie, et où donc il y a l'évaluation de la taille des grains au niveau de la production, des grains de café verts, c'est-à-dire les grains de café une fois qu'ils ont été dépulpés et séchés, et ensuite il y a la note une fois le café torréfié. Donc c'est un café qui a le moins de défauts possible, donc le moins d'amertume possible. Et il faut savoir que les plus mauvais cafés, malheureusement, restent dans les pays producteurs. En fait, ils sont vendus dans les pays de production. Donc ça suit une logique assez post-coloniale, on pourrait dire.
Beaucoup de choses se jouent sur cette torréfaction. Dans le fond, c'est un peu comme dans le vin aussi. On dit qu'attention, la vinification, ça compte énormément. Bien sûr, il y a aussi le terroir, mais la vinification. Là aussi, ça tout se joue à la torréfaction, mais ça se joue beaucoup en amont.
Non, c'est vraiment tout le processus. Une torréfaction ratée donnera un café trop amer, trop fort aussi. Alors que aussi au niveau de la production, si vous avez une production qui cherche le café de spécialité, ça va être beaucoup plus de travail de caféculture manuelle, un peu moins mécanisé, encore que c'est à relativiser. Mais et dans des régions, il y a des régions aussi qui donnent plus facilement du café de spécialité, par exemple dans la Serra da Mantiqueira, qui est une région au Brésil de terroir, qui a une appellation d'origine aussi maintenant. Il y a une petite phrase qui se dit que tu plantes un grain de café, pouf, il en sort du café de spécialité, en fait.
Comme ça.
Oui, en fait, ça pousse. Il y a la rencontre de la bonne latitude avec le climat adéquat et la bonne altitude aussi, parce que c'est dans les régions de montagne entre 1200 et 2000 mètres. Et voilà, c'est une région propice au café, en tout cas de spécialité. Pas que, mais il en sort beaucoup.
Nous parlons des cafés de spécialité ce matin dans Tribu, des lieux qui les vendent, mais aussi du produit lui-même. D'ailleurs, vous nous avez commencé à nous faire voyager. Marie Sigris nous a demandé si le succès de ce café haut de gamme a des conséquences sur les conditions de production. Ça sera juste après Frazy Ford.
One more cup of coffee for the voice trembles as he calls out for another faithful. One more cup of coffee for the road. One more cup of coffee before I go to the valley below.
One More Cup of Coffee, c'est une reprise de Frazee Ford, d'un classique de Bob Dylan. On vous retrouve, Marie Sigrist, nous parlons des cafés de spécialité avec vous ce matin. On était dans les bars branchés un peu partout en Suisse et ailleurs pour déguster. Maintenant, on va traverser l'Atlantique. Vous avez fait un travail de terrain, c'était au Brésil, sur cette question du café, de manière générale, et aussi du café de spécialité. Juste peut-être un mot sur le Brésil. C'est le plus gros exportateur de café au monde.
Tout à fait, le Brésil est le plus gros producteur et exportateur de café au monde. C'est principalement dans les régions de Minas Gerais, donc l'état de Minas Gerais, avec des régions dans cet état qui sont le Cerrado. On voit beaucoup de café de cette région-là qui est plutôt mécanisé. Et aussi des montagnes de Campo das Vertentes, et de Serra da Mantiqueira, dont je parlais précédemment aussi.
Vous allez sur place, vous avez rencontré des producteurs, des productrices aussi. Est-ce qu'il y a un phénomène café de spécialité sur place ou est-ce que c'est complètement marginal en termes de production?
Alors, faut savoir que c'est une région qui produit du café depuis la colonisation, en fait. Une région qui a été vraiment tournée vers la caféiculture à la suite du déclin de l'or dans ces régions, des mines d'or. Donc, le café est venu remplacer l'or et a été vu comme une denrée pour le grand capital, déjà pour les colonies et ensuite pour le capital avec l'industrialisation, voilà. La plupart du café venait du Brésil et vient encore toujours du Brésil. D'ailleurs, souvent, on avait tendance à nommer le café, c'est un café Santos pour dire que c'est un café du Brésil. Mais en fait, Santos, c'est juste le port par lequel le café transitait et ça veut rien dire du tout sur l'origine du café même, des régions du Brésil. Enfin, ça reflète une certaine invisibilisation justement des producteurs de café. Et le café de spécialité vient remédier plus ou moins, je dirais, à cette invisibilisation parce que avec du café de spécialité, on peut mieux tracer le chemin du café et donc savoir de quel producteur il s'agit quand on achète son café. Donc moi, pendant mon terrain au Brésil, j'ai pu en effet rencontrer ces producteurs et pour eux, le café de spécialité, ça fait maintenant 6-7 ans qu'il y a un vrai essor et il n'y a pas un seul producteur qui n'est pas intéressé par sa production.
Mais on sait combien ça représente en termes de pourcentage, je ne sais pas, du volume global du café consommé, le café spécialité?
Alors pour l'instant, ce serait 1/5 du café produit.
Ah quand même, 20%.
Oui, et ce serait, alors il est annoncé, mais bon, encore une fois, c'est selon la météorologie et selon le marché aussi, mais il se pourrait que d'ici une quinzaine d'années, ce soit multiplié par 4.
Ah, donc que ça prenne quasiment la grande majorité du marché mondial du café.
C'est ça, il y a une vraie demande du café qui inquiète aussi au niveau local parce que comment produire un café de grande qualité en grande quantité? Là, c'est une autre question. Est-ce que les terres peuvent produire ceci? Est-ce que c'est quelque chose de vraiment durable au niveau des travailleurs sur place? Voilà, c'est plein d'enjeux et plein de questions qui existent.
Est-ce qu'il y a un peu des fois... Est-ce que vous avez rencontré deux générations, peut-être les parents qui travaillent sur un terrain à l'ancienne peut-être, et les jeunes qui se voient peut-être barista ou qui ont cette notion-là de ces cafés de spécialité? On le voit sur place?
Oui, absolument. Il y a des fermes, la plupart des fermes sont héritées des parents, des grands-parents. Enfin, c'est pas seulement la culture du café d'un point de vue agricole, c'est aussi une culture sociale, historique, qui malheureusement est héritée aussi d'un fonctionnement esclavagiste. En tout cas, il y a beaucoup de petites fermes encore, près de la moitié de la surface de production de café est au Brésil tenue par des petits exploitants, des familles de caféiculteurs. Et ce qu'on constate, et ce qui suit un phénomène d'exode rural quand même, c'est que les jeunes ne veulent plus faire ces métiers de caféiculture parce que c'est des métiers qui sont beaucoup trop pénibles, sous des chaleurs incroyables avec les aléas météorologiques à supporter. Qui parfois ne rapporte pas suffisamment parce que il y a les aléas du marché aussi. Le café est un produit coté en bourse et donc suit la fluctuation du marché. Et les jeunes enfants de caféiculteurs recherchent aussi à rester dans la caféiculture, mais sans pour autant aller dans les champs. Donc il y a tout un phénomène de formation à des nouveaux métiers caféiers. Mais sans être dans la caféiculture, qui sont par exemple ces métiers de classification et d'évaluation dont je parlais précédemment, ou de barista en effet un peu aussi, et qui leur permettent de pouvoir voyager. Parce qu'il y a, par exemple, au Portugal, j'ai pu faire quelques observations dans des torréfactions et des bars à café. Et il y a j'ai rencontré plusieurs baristas brésiliens qui viennent de ces régions. Et pour eux, c'est l'opportunité de voyager et de s'ouvrir au monde, d'apprendre l'anglais parfois ou d'avoir une ouverture sur le monde, en fait, voilà.
Marie Sigrist, vous avez utilisé plusieurs fois le terme de colonial ou post-colonial. C'est une industrie, le café qui est né, vous l'avez dit, dans les colonies à la suite de la ruée vers l'or. Est-ce que ça marque encore, il y a une sorte d'empreinte coloniale sur la production actuelle ou c'est du passé?
Non, absolument, c'est complètement présent encore aujourd'hui, et c'est un système qui est tellement organisé autour d'une logique de hiérarchie du café, en fait, et hiérarchie des pays qui sont historiquement liés au café, que c'est difficile de sortir de ces inégalités mondiales, en fait, que le café crée. C'est-à-dire que le café est produit majoritairement dans les suds globaux, donc dans les pays qui sont moins riches, on va dire, moins développés, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, il y a en tout cas une production qui se fait beaucoup en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, et comme je l'expliquais tout à l'heure, chaque grain de café est évalué. Ouais, il y a des échantillons et selon ces échantillons, il y a une note qui sort. Et les meilleurs cafés, donc à plus de 80 points, sont les cafés de spécialité qui vont être achetés puis consommés dans les centres urbains globaux des pays du Nord, donc comme les bars à café dans les quartiers gentrifiés, par exemple. Et à l'inverse, les cafés ayant une plus mauvaise note sont les cafés où il reste des défauts dans les grains, dans les échantillons. Parfois, on peut retrouver, il y a même, je crois, la classification au niveau du Brésil, elle tolère un certain pourcentage de résidus d'insectes ou d'animaux dans les lots avec des défauts de d'épluchure, en fait, qui peut rester. Ça crée une forte acidité dans le café et c'est ce café-là qui est consommé localement. Donc, pour moins sentir l'aigreur et l'acidité qui pourrait en ressortir, c'est un café qui est énormément torréfié et avec un ajout de sucre assez conséquent au Brésil. Localement, les personnes ne conçoivent pas de boire un café sans sucre. C'est assez amusant. Enfin, amusant. C'est pas amusant, mais c'est la réaction quand on demande un café sans sucre, c'est toujours des yeux ébahis. Mais pourquoi tu mets pas de sucre?
Est-ce que c'est quand même positif au niveau de l'argent, ces cafés de spécialité, parce qu'on l'a dit, ça se vend cher. Dans certains bars, on peut boire des tasses de café à des prix très élevés ici en Europe. Est-ce que quand même, les producteurs, les productrices, elles sentent la différence, ça leur apporte davantage et peut-être des conditions aussi de travail meilleures?
Alors oui, ça leur rapporte, économiquement, ça leur rapporte davantage parce que un sac de café vert, donc, pour avoir une idée, un sac, c'est la mesure du café sur le marché et c'est 60 kilos de café au Brésil, un sac de café. Donc cette valeur-là, le sac de café peut... Donc quand c'est du café de spécialité, ça peut se vendre jusqu'à 20 fois le prix.
20 fois?
Oui, 20 fois le prix du café normal. Là, je vous parle là, c'est les meilleurs. Hein, c'est entre guillemets les grands crus du café. Et localement, en Suisse, par exemple, si vous allez acheter du café de spécialité, ça peut être entre 5, 7 fois le prix d'un café normal, du café de spécialité. Donc, il y a aussi toute une part d'acteurs qui prend sa part, enfin la marge, voilà, les intermédiaires. Mais pour les producteurs, c'est une vraie plus-value. Et au-delà du capital économique, je dirais que c'est aussi un capital symbolique, parce que pour eux, c'est une vraie fierté de pouvoir faire connaître leur ferme, leur histoire, sur des paquets qui sont vendus dans d'autres pays. Et aussi au niveau local, on constate il y a des compétitions au niveau local qui classent le café. Donc les meilleurs cafés de spécialité se distinguent des autres, et les gens parlent beaucoup entre eux. Ça crée toute une effervescence au niveau de la production.
Vous avez fait un podcast, notamment où vous suiviez une productrice, je crois, qui a prochaine de la soixantaine. Ça ressemble à quoi, sa vie, concrètement, sur place? C'est du lourd travail des champs au quotidien? À quoi ça ressemble?
Alors oui, elle, d'ailleurs, c'est pas une productrice, c'est une ouvrière agricole, en fait, travailleuse rurale, on dit au Brésil. Et donc, c'est des personnes qui sont employées sur les productions, dans les plantations même. Donc, ils font un travail agricole, soit d'entretien des plantations, soit de la cueillette du café pendant la saison de récolte. Et ça consiste à travailler toute la journée, à se lever très très tôt. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir un véhicule, qui vivent dans des conditions de très grande pauvreté. Pour sa part, elle se lève à 4h30 le matin pour pouvoir ensuite prendre le bus de la ferme, aller jusqu'à la ferme à 7h, être dans les plantations pour cueillir le café. Il y a juste une pause d'une heure le midi. C'est un travail qui est vraiment sous la chaleur, très physique. Il y a beaucoup d'animaux, il y a des fourmis qui piquent, c'est parfois porter des sacs de 60 kilos, comme je disais tout à l'heure, parfois même 70 quand le café est pas tout à fait sec. Et pour un salaire qui est vraiment insuffisant pour couvrir les besoins primaires locaux.
C'est ce qui ressort dans une partie de votre travail, Marie Sigris, les conditions parfois très difficiles. En préparant cette émission, je me dis, tiens, c'est intéressant, le café, on a l'impression qu'il est tellement central dans la vie des gens qu'en fait, il y a peu de gens qui osent vraiment critiquer, parce que c'est comme si on n'arrivait pas à se passer dans le fond de ce petit noir du matin, au travail, à la maison. C'est pas facile d'avoir parfois un regard critique sur cette industrie-là?
Non, c'est pas facile. C'est vrai que y a peu de personnes, en tout cas en Europe, qui connaissent en fait le fonctionnement de la chaîne. Moi-même, avant de faire ces recherches, je savais pas du tout comment ça marchait. C'est d'une complexité de vérifier les informations aussi, de savoir qui travaille avec qui, le chemin du café parcouru. Et ce qu'on peut voir dans les bars de café, qui vendent du café de spécialité, en tout cas, c'est que a priori, il y a une préoccupation pour des valeurs éthiques et écologiques, comme je disais précédemment. Mais dans le fond, on continue quand même de consommer, en fait. Donc ça rejoint le concept, enfin la classe des enfants gâtés qui a été développée par la sociologue Fanny Paris au sujet de personnes de classe moyenne, à haut capital culturel, enfin qui ont des diplômes, qui sont soucieux de comment consommer, de faire attention à l'avenir de la planète, enfin de la consommation alimentaire, de tous ces enjeux-là, mais qui pour autant ne souhaitent pas renoncer à leur confort lié au capitalisme et au confort matériel et de la consommation.
On regardera peut-être différemment notre café chaque matin. Merci beaucoup Marie Sigris de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes anthropologue, chercheuse au groupe Transition agroécologique de l'EPF de Zurich. Vous travaillez donc sur cette chaîne de valeur du café. Bonne suite de journée à vous.
Merci à vous aussi.
Tout de suite, place à Marie Riley et à ses décodeurs. Je vous souhaite quant à moi une excellente suite de journée à l'écoute de La Première.
Tribu, Julien Magnolet. Chacun pour tous. La minute de solidarité avec Jean-Marc Richard.
Chaussettes, bonnets, pulls, jaquettes et couvertures. Pour les offrir à des personnes défavorisées, c'est ce que fabriquent les missionnaires de l'ouvroir d'Epany, c'est-à-dire une quinzaine de dames bénévoles qui tricotent et qui désirent utiliser leur temps pour venir en aide aux plus défavorisés. Nous recherchons pour les aider à tricoter de la laine en tout genre, des fermetures éclairs détachables et des boutons 6 identiques minimum. 058 236 1600 rts.ch. / chacun pour tous. Merci.
spectacle humoristique sur la séparation, un hommage à Raymond Devos, une conférence autour d'une création, du Shakespeare, une machine à images que le public expérimente en étant couché sur scène. Oh. Frédéric Recrozio et la paternité, mais aussi du cirque et de la danse. C'est ce qu'il vous attend jusqu'à la fin de l'année au Théâtre du Passage. C'est la toute dernière programmation de Robert Bouvier qui quitte la direction de l'institution de Châteloise après 24 ans passés à sa tête et il nous en parle depuis lundi. Bonjour Robert Bouvier.
Bonjour tout le monde.
Avec nous également trois dicodeurs et une dicodeuse, Sandrine Viglino, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Frédéric Gérard.
Bonjour Marie.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
Ouais,
c'est votre nom. Bonjour.
Je sens qu'on va rire aujourd'hui.
Ah oui, bah, comme tous les jours de cette semaine. Daniel Rosis, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous allez bien?
Ça va bien, merci.
Et bonjour Thierry Romanens.
Bonjour tout le monde.
Thierry Romanens, on l'a un tout petit peu évoqué, et là je reparle de cet hommage à Raymond Devos. C'est en fait une création de Bruno Coppens qui s'intitule Raymond de rond en large. C'est à voir lors d'une supplémentaire en mai 2025, parce que vous avez un succès fou, Thierry Romanens, quand même.
Bon, il sera déjà vu donc le 29 octobre. Là,
y a voilà, mais des pour ceux qui n'ont pas pu attraper des places.
Oui,
voilà.
Oui.
Et ça n'est pas la première fois que vous montez sur la scène du passage. Vous êtes un habitué.
Alors j'y suis venu régulièrement. Ouais, ouais.
Voilà. Ouais. Robert Bouvier, vous proposez également à votre public de vous suivre dans les coulisses du théâtre. Ça, ce sera le 20 novembre. Et vous serez accompagné de votre successeur, Robert Sandeau.
Oui,
ça se passe à midi. Je vous l'apprends peut-être.
Oui, ça s'appelle je sais, passage de midi.
Non, mais je sais pourquoi il était ému. Parce que vous m'avez dit, vous êtes déjà venu plusieurs fois jouer ici. Et moi, je me disais, oui, mais on en a déjà parlé. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Que j'ai joué avec Robert dans une création dans laquelle il m'a engagé et que j'ai joué le rôle de sa maman. Donc, je fus... Voilà. La mère juive de Robert de Bobby Cech dans Funérailles d'hiver de la Locke-Lévin. Donc j'étais la maman de Robert. Il m'enterrait. Je mourrais assez vite. Hein, je mourrais très vite. Et après j'interprétais la mort. Ouais. Donc voilà, on a même partagé le plateau.
Absolument.
Waouh. Dans une co-création belge et suisse. Voilà. Non, mais un truc qui avait tourné une quarantaine, cinquantaine de fois, c'est pas rien, quoi.
Bah, dis donc.
Et je pense que le mieux, ça reste le wow de Daniel Rosis. Ouais. Voilà. Donc, on retourne au 20 novembre. Merci, Thierry Romanens, pour ces précisions.
Bon,
on adore savoir que vous êtes une mère, quelque part.
Ouais, moi, j'ai essayé d'imaginer.
Oui.
Une image mentale.
Le 20 novembre, donc, vous faites visiter, ça c'est sur la pause de midi, vous faites visiter les coulisses du théâtre et vous êtes donc avec votre successeur, Robert Sandeau. Mais ça fait pas bizarre d'accueillir le nouveau. Enfin, vous vous entendez bien?
Oui, tout va très bien. Les deux Robert, ça y est, on nous a trouvé déjà un surnom. Et puis, c'est un... non, c'est quelqu'un en qui j'ai tout à fait confiance. Et puis, c'est organisé par ce qu'on appelle l'atelier des musées à Neuchâtel. Ce sont des visites des institutions, de leurs coulisses. Et alors, dans un théâtre, il y a toujours beaucoup de choses à dire, beaucoup d'anecdotes. Et donc, on le fait chaque année. Mais pour la première fois, je le ferai... accompagné.
Vous allez lui montrer en fait les coulisses.
Il les connaît bien, il est venu souvent ici.
C'est un passage de bonnet dans le fond.
Ouais. Le gros bonnet. Les deux Robert et leur gros bonnet.
Oh là là. Non mais allez-y, poussez encore, vous voulez en sortir une autre?
Non, je vais pas les sortir moi, mais par contre... C'est vous qui l'avez dit, ce coup-ci. Hein.
Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai
pas
dit.
Vous êtes scandaleuse, Marie.
Oh, mais c'est pas possible.
Non, c'est dingue.
Je m'excuse, je suis limite, désolée.
Ouais, ouais.
Pardon?
Non, c'est bon,
ouais, voilà. Bon, écoutez, j'ai plus rien à dire. C'était très intéressant. Oui, j'ai une chose à demander encore, Robert Bouvier. Est-ce qu'il y a des secrets? Vous allez devoir passer comme ça à votre successeur, à Robert Sandeau, des choses que personne ne sait qui se passent dans les coulisses, justement, du Théâtre du Passage.
Je sais pas, moi, j'ai l'impression, je doute qu'il va nous dire quelque chose d'important.
Quoi? Des politiciens à qui il faut donner des pots de vin, des choses qu'on ne peut pas savoir et que vous allez quand même nous dire à l'antenne.
Non, je pense qu'effectivement, c'est chaque jour, il y a un nouveau secret, un nouveau sésame, un nouveau mot magique à trouver, mais... le secret que personne ne connaît, c'est effectivement comment faire en sorte pour que le public vienne dans une salle de théâtre. Et ça, si on avait la recette, mais on fait des tentatives tout au fil de la saison.
Des fois ça marche, des fois pas.
Quand vous êtes entré dans ce théâtre du Passage il y a 24 ans, vous l'avez inauguré, est-ce que vous vous attendiez à toutes les casquettes que vous avez portées finalement durand ce mandat, quand je pense surtout à toutes ces relations justement avec les politiciens, avec la commune, avec Neuchâtel, avec les habitants?
Mais c'est ça qui m'a amusé, ça nous rend très humbles, parce que quand on joue, on a envie d'avoir un bon rôle et d'être dans un bon théâtre, et tout à coup, on comprend effectivement ce que c'est que de trouver l'argent, de faire venir des adolescents dans une salle, qu'est-ce que c'est de sensibiliser un sponsor, et je crois que j'avais une spontanéité, effectivement, quelque chose d'assez prime-sautier, d'assez direct avec les gens, qui faisait que chaque fois, je me réjouissais de rencontrer un garagiste qui allait nous offrir une voiture, ou
moi aussi je me réjouirais.
Voilà, il m'est arrivé des anecdotes incroyables avec une mécène anglaise qui m'a présenté à la princesse Anne. Enfin, chaque jour.
Sympa.
Oui, c'était quelque chose. Et c'est un des personnages de mon solo, parce qu'effectivement, c'est pas tous les jours qu'on croise quelqu'un qui vous aide à faire venir le Kirov ou le Stuttgart Ballet ou des cirques de Chine avec 100 interprètes et que vous ramenez des chèques de plus d'un milliard. Donc, j'ai eu des contes de fées ici, des choses complètement insoupçonnées qui me sont arrivées. Oh. Et puis, ce lien avec effectivement des publics que je ne connaissais pas.
J'ai retenu des chèques.
Non, un milliard.
Un million.
Ah bon. Parce qu'un milliard, si vous mettez des billets de 100 francs, ça monte jusqu'à la lune. Hein, là.
Ouais. Et puis sur le chèque, il faut, je sais pas s'il y a la place pour les zéros.
Non, c'est un million.
Un million, mais c'est déjà beaucoup.
Oui, voilà. Déjà bien un million. Hein. Ouais.
Par contre, au niveau des points. On n'est qu'à 14. Hein,
qu'à 14. Voilà. C'était pour faire le gag.
Dans deux lignes,
oui. Alors on avance.
14 millions.
Une question qui nous emmène dans l'espace, Robert Bouvier. Quelle est l'odeur d'une comète? Voilà, on parle de tout dans les décodeurs. Quelle est l'odeur d'une comète? Voici la réponse de Thierry Romanon.
Oui, les comètes sont des astres, hein, dits périodiques. Ça veut dire qu'on ne les voit pas tout le temps, il y a un cycle. Voilà. Et c'est des astres qui sont en orbite autour du Soleil. Et quand la comète passe près du Soleil, le noyau qui est en glace et en poussière fond un peu. Et c'est pourquoi il y a cette queue luminescente qui peut s'étendre sur des dizaines de millions de kilomètres. C'est un truc qu'on n'arrive pas à s'imaginer, nous, ces trucs dans l'espace, là. Non, mais ces dimensions, c'est pas possible. Le noyau, il est énorme, déjà beaucoup de kilomètres, et la traînée dégagé par le réchauffement par le soleil, des millions de kilomètres. Monstrueux. Donc, non, on a déjà de la peine à imaginer la taille. Donc, maintenant, imaginez l'odeur.
Et puis, pour vous, ça va être compliqué. Hein.
Et en plus, pour moi, c'est râpé. C'est carrément râpé. Je vous remercie de votre compassion.
De rien.
L'odeur d'une comète. Donc, non, mais déjà, comment tu veux... Je sais pas qui peut foutre le nez là-dedans. Enfin, bon. Donc, alors vu la température, je me suis renseigné. Enfin, j'ai relu l'encyclopédie Universalis sous comète hier soir. Alors, vu la température, il y a des réactions chimiques de décomposés en présence, des trucs, je ne savais même pas, du phénol, des terpènes, des aldéhydes, d'hydrocarbures, ce qui fait que la comète, en gros, fouette comme du bois brûlé. C'est assez étonnant. Hein. Donc, ça sent comme si vous avez cramé le chalet, quoi. C'est ça, un peu l'odeur dans le cosmos. Voilà. C'est ça.
Merci, Thierry Romanon.
Vous en priez,
bien sûr. Vous voulez dire Frédéric Gérard.
Oui, la comète a une queue, mais elle sent des pieds. Ça, c'est un bon début.
Oh putain, là, mais toi, tu vas direct dans la fosse. Quoi.
Ça, c'est un bon début, ça.
Vous remarquerez que j'ai rien ajouté. Hein.
Non.
Plus précisément, elle sent le pied, mais pas n'importe quel pied. Un pied nu qui marine pendant des heures dans une basket en cuir quand il fait très chaud l'été.
Ah, c'est fort.
L'odeur de la comète est donc un mélange subtil de transpiration âcre et de mycose quand on la gratte. Voilà. Ouais, je suis désolé, hein, c'est ce que j'ai lu. Quand on sent une comète, ce qui arrive somme toute assez rarement, rassurons-nous, on a envie de prendre ses jambes à son cou, mais en laissant les pieds. Voilà.
Merci
de votre admiration.
Sandrine Viglino.
Alors moi, dans ma vie, il y a des questions que je me suis jamais posées, comme par exemple, pourquoi les pizzas qui sont rondes vont dans des boîtes carrées, sont coupées en triangles? Est-ce qu'il y a des gens qui mettent une baignoire dans leur cuisine? Pourquoi les décodeurs enregistrent tous les jours à midi et n'ont jamais pensé à regrouper l'enregistrement un soir de semaine?
C'est bien
et
vrai.
Et cette question existentielle, quelle est l'odeur d'une comète? Donc, heureusement, quelqu'un s'est posé cette question et je lui en suis reconnaissante. Alors, pour découvrir le parfum d'une comète, comme l'a dit Thierry, d'abord, il faut savoir qu'elle est composée de glace, de poussière, de roche, de composés organismes, mais surtout...
J'ai pas dit que des conneries.
Mais attends, t'as pas rajouté de l'essentiel. Elle est composée de poussière d'étoiles, d'espoir de gens qui font des vœux en la voyant et qu'elle est chevauchée par une licorne qui rejoint la Terre. Les comètes sentent donc la magie. Alors, s'il y a des curieux qui veulent savoir comment ça sent la magie, eh ben, c'est simple, renifler une comète, c'est la même odeur.
Et on termine avec vous, et j'ai de plus en plus peur de vous donner la parole, Daniel Rosis.
Ben, c'est l'université de Berne qui a développé une espèce de NES, c'est-à-dire un truc qui est capable d'analyser les gaz à distance. Alors, il y a trois gaz principaux, il y a les sulfures, l'ammoniac et le formaldéhyde. Donc, comme ça ne veut pas dire grand-chose, j'essaye de traduire. Donc, le sulfure, ça sent l'œuf pourri. L'ammoniac, c'est entre le camembert bien fait et le crottin de cheval qui aurait bouffé les prunons. Vous savez, le crottin, alors, un peu déformé, comme ça, phase numéro 4. Puis le formaldéhyde, pour pas dire que des saloperies, c'est la peinture fraîche. Donc, en gros, quand vous foutez le nez sur une comète, vous avez l'impression qu'il y a Pégase qui en a lâché une. Et d'ailleurs, Bruce Willis lui a dit « Hey Pégase, tu portes bien ton nom, Pégase !» Et ça, c'est l'odeur de la comète.
Et après, il est mort, malheureusement.
Que fait Bruce Willis, ben, ouais. Il a eu le temps de lui dire ça avant de claquer sur la comète. Quoi ?
J'arrive pas à vous imaginer en train de regarder Armageddon.
J'ai vu, il y a eu deux films à peu près en même temps sur la même histoire. Là.
Il a le costume. Ouais.
Moi, je regarde pas Armageddon, mais je me fais raconter. Alors, tous les gens que j'encontre, je dis « T'as vu Armageddon ? Raconte !» Puis après, j'ai des images superbes. J'ai pas l'odeur, par contre.
Je savais. Vous pouvez l'applaudir, oui. Quelle est l'odeur d'une comète? On répond à toutes les questions dans les décodeurs. Voilà, c'est mieux que c'est pas sorcier, cette émission, finalement. Thierry Omanens, vous nous dites qu'une comète sent le bois brûlé.
Oui.
Oui.
Non, je découvre encore
oui, vous attendez,
de la tête,
hein.
C'est assez joli, ouais.
Frédéric Gérard, pour vous, une comète sent les pieds.
Ouais, mais enfin une odeur un peu spéciale.
Voilà. Sandrine Viglino, pour vous, la comète sent la magie. Ouais. Adore. Et Daniel Rosis, vous nous dites quels sont l'œuf pourri, le crottin de cheval.
Et la peinture fraîche.
Et la peinture fraîche. Robert Bouvier, pour un 15e point, que sent une comète?
J'essaie de croire à la définition de Daniel.
Bravo!
15e.
Et le public a bien voté. Presque tout le monde a voté pour Daniel Rosis. Effectivement, une comète sent un mélange entre œufs pourris et fumier de cheval. Un des instruments de la sonde Rosetta permet d'identifier les différents gaz entourant la comète. Ce nez conçu en Suisse a permis d'identifier une odeur de monoxyde et de dioxyde de carbone qui sont les plus présents. D'autres gaz nous feraient froncer le nez. Le parfum de la comète est particulièrement fort avec l'odeur de l'œuf pourri, du sulfure d'hydrogène, celle de fumier de cheval, de l'ammoniac et le piquant formal. Déide, analyse Catherine Altweg, c'est la chercheuse de l'université de Berne.
L'autre jour, ma femme m'a dit, t'es sûr que c'est pas une comète qui a passé, ou bien.
Mais c'est une bonne excuse,
Peut-être. Oui. Fais un vœu.
Oui, exactement. Mais si vous êtes la femme de Daniel Rosis et que vous avez besoin d'aide, appelez-nous, on est là.
Donc j'en ai plusieurs, il y en a une pour les jours pairs, l'autre pour les années bissextiles.
Si vous êtes les femmes de Daniel Rosis et que vous avez besoin d'aide, appelez-nous. 15e point pour notre invité, Robert Bouvier.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner.
all over the place.
We will, we will rock you.
Sing it. Oh,
we will rock you.
Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
We will rock you.
Sing it.
We will rock you.
Everybody,
we will rock you. We will rock you.
All right.
On impose un peu le monde de la culture à celui du sport. Or, on peut aimer la littérature, le théâtre et être passionné de foot, comme par exemple Friedrich Dürrenmatt, qui se servait de son télescope pour regarder les matchs de foot du Neuchâtel Xamax depuis sa terrasse. C'est vrai. Robert Bouvier, est-ce que vous aimez le foot ?
Dans mon petit spectacle, je dis que j'ai été ni attaquant ni défenseur, mais roi de l'autogoule. Donc, le foot ne m'aime pas, en tout cas.
D'accord. Et ben, malheureusement, voici une question sur le football. Qu'a-t-on modifié au terrain de football en 1902 ? C'est Frédéric Gérard qui répond à cette question le premier.
Oui, je suis spécialiste du football, comme tout le monde le sait. En 1902, on a ajouté les poteaux. Enfin, même des poteaux aux quatre coins du terrain. Les fameux poteaux de corner, ouais. Une autre question de Maurice de Fribourg. Monsieur Gérard, pourriez-vous me dire pourquoi il y a 11 joueurs dans une équipe de foot ?
Ah ouais.
Ouais. Eh bien, mon cher Maurice, à cause du gardien, oui. 10 joueurs de champ plus le gardien, ça fait 11. Ouais. Sacré Maurice, il n'avait pas pensé au gardien.
Ouais. Ouais. Je comprends pas ce qui est en train de se passer.
Bah nous oui.
Non mais pourquoi il y a 11 oui. joueurs non, sur un terrain voilà. oui. C'est à cause du gardien.
Ils sont combien sur il y a combien de joueurs ?
Il y a 10 joueurs de champ oui. plus le gardien.
Alors 10 plus 1, ça fait combien ?
Ça fait 11.
Oui.
11, ben voilà.
Voilà, c'est tout.
Je n'avais
rien non plus Marie.
Il doit y avoir un truc. Non, oui, non, mais alors j'ai
alors,
très
je vous explique
bien
plus
oui.
simplement pourquoi oui. est-ce qu'on met des cloches aux vaches ?
Est-ce qu'on est rentré dans un vortex ?
Non,
je ne comprends pas ce qui est en train
c'est
de se passer.
C'est parce qu'elles ne peuvent pas se les mettre toutes seules, vous voyez.
Mais merci, merci Frédéric Gérard.
Mais voilà. C'est un honneur.
On toujours. Passe à Sandrine Viglino.
Moi, cet été, j'ai découvert la série The English Game, hein, qui explique les origines du football professionnel.
Oui, belle série.
Tu l'as vu, super. Hein. Bah, dans cette série, j'ai appris qu'avant, on ne se posait pas la question de savoir si on allait jouer en 4-4-2 ou 4-5-1 comme aujourd'hui, mm-hmm. parce qu'on jouait en meute. Pratique qui a été gardée par les hooligans. Ouais, avec l'arrivée des deux premiers joueurs pros de l'histoire du foot, donc Fergus Suter et James Love, la première révolution amenée par ces footballeurs a été de répartir les joueurs sur le terrain. Puis, voilà, puis en 1902, vu qu'on avait inventé les attaquants, on a dû créer la surface de réparation où les attaquants pouvaient se rouler par terre en toute sécurité. Zone devant le but où les fautes deviennent plus graves et génèrent un pénalty. Alors, ouais, 2 ans plus tard, l'Italie a inventé la zone de recoiffage derrière le but, mais ça n'a pas tenu. Et cette réponse, Robert, elle est vraie, parce que oui, les femmes s'y connaissent en foot.
Ouais,
hein, oui, Daniel Rossi.
Elle est pas super.
Donc en 1902, il y a eu un truc important, c'est qu'on a inventé la règle du corner. Donc ça a eu une monstre influence sur les terrains, parce qu'à partir de ce moment-là, il fallait des terrains rectangulaires. Parce qu'avant, on jouait sur des terrains ovales. Ouais. Si vous regardez Wembley, le stade qui a été détruit en 2003, il était ovale, ellipsoïde, et il y avait la piste d'athlétisme autour. Alors, ce qui était assez bonnard, parce que comme le terrain était ellipsoïde, on avait besoin que d'un juge de touche. On s'occupait que d'une ligne. Il y a une ligne quand
il courait autour.
Non, alors maintenant, le problème, c'est que depuis qu'il court le 400 mètres dans le nouveau stade de Wembley rectangulaire, pour les virages, c'est très compliqué.
Merci, Daniel.
Je vous en prie. Je vous en prie.
De plus en plus.
Et finalement, Thierry Romanens.
Oui, qu'a-t-on modifié au terrain de football en 1902 ? La buvette. Parce qu'en 1902, on l'a accordé et surtout voire imposé c'est une nouveauté, c'est moins con qu'il n'y paraît, voire imposer au club de foot la gestion de la buvette pour le public. Il s'agissait à l'époque d'une mesure de santé publique, parce que il n'était pas rare d'avoir des malaises parmi les supporters pour déshydratation. Je vois que vous m'accordez un crédit qui est limité, mais sincère.
Oui.
Merci. Voilà.
Merci Thierry Romanos. Qu'a-t-on modifié au terrain de football en 1902 ? Frédéric Gérard, vous nous dites qu'on a ajouté les poteaux de corner.
Tout à fait.
Pour Sandrine Viglino, c'est la date de la création de la surface de réparation. Pour Daniel Rosis, l'invention de la règle du corner, donc des terrains rectangulaires. Et finalement, pour Thierry Romanens, c'est la date à laquelle on a imposé la tenue d'une buvette par club de foot. Voilà, pour un 16e point. Robert Bouvier, qu'est-ce qui a été modifié sur les terrains de football en 1902 ?
Peut-être le poteau.
Ah bah dans le poteau. Hein, dans le poteau.
Eh bien non, c'est en 1902 qu'a créé la surface de réparation. C'est Sandrine Viglino qui a eu la bonne réponse. Ah. Oui, la penalty area, une surface tracée à 16,5 mètres. Oui, les 16 mètres, les fameux 16 mètres, à partir de la ligne de but pour une largeur de 40 mètres. Lorsqu'une faute est commise dans cette aire de jeu, l'arbitre siffle un penalty, une possibilité de réparer l'injustice qui est faite à l'attaquant. Voilà, c'est à ça qu'elle sert, cette surface de réparation. Et je trace le 16e point que je vous avais mis par amitié pour noter à nouveau 15.
Le rond du milieu, il sert à quoi ?
Mais c'est ça qu'on se pose comme question.
Vous savez à quoi ça sert, le rond du milieu ?
Le rond du milieu ?
Ah non, moi je peux vous dire. C'est l'endroit où doivent se tenir tous les joueurs pendant les tirs au pénalty après le match. Ça sert uniquement à ça.
Ah non, mais pourtant ils ne tiennent pas là.
Non, bah, la règle dit qu'ils doivent rester dans le rang central. Ah, ouais, ils n'ont pas le droit de sortir du rang central.
Qui mesure ?
Non, je t'assure. Et je peux vous dire combien mesure le rang central.
Moi, je peux. 15 points pour Robert Bouvier. Nous sommes le 17 octobre et le 17 octobre 1972 naissait le rappeur américain Marshall Bruce Mathers III, alias Eminem. Il a donc 52 ans aujourd'hui. En plus, il vient d'apprendre qu'il allait être grand-père. Ça nous met un coup de vieux à toutes et à tous. Bon anniversaire Eminem, le voici avec Lose Yourself sur RTS Première. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it or just let it slip? Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit, he choke. He's so mad, but he won't give up. So stagnant, he knows when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't be better. Lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime, you better lose yourself in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity. Taking, make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to post-mortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over, these losses all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home, he's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These losses don't want him no more, he's cold product. They move. Goes on, that it don't, that don't die. Lose yourself
this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the daughter caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trailer's got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity.
Robert Bouvier, nous arrivons à un moment que tout le monde anglophone redoute le plus, le moment que le monde anglophone redoute le plus dans cette émission, c'est celui de la chanson traduite. Aujourd'hui, les décodeurs interprètent un titre de Chuck Berry, Johnny B. Goode, mais en français. Accrochez-vous à vos chaises. Vous devez savoir quel couplet est le bon. Et c'est Olivier Magarotto qui accompagne nos décodeurs.
Un jour désespère aux vieilles ennemis. N'ai-je donc t'ai vécu que pour cette infamie. Voir dans ce plat odieux l'infâme brocoli me retourne le cœur et du coup je vomis. Si vous me demandez à l'instant si ça va, ben je vous répondrai, eh ben non ça va pas.
Va, 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 va jaloux, va, va, va. Va, jaloux, va.
Puis juste en dessous, une corde de si. Puis la corde de sol qui était moins serrée que celle d'à côté qui est la corde de ré. Par en dessous, la corde qui est accordée en la. Il y a une autre en mi, une octave plus bas.
Va, 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 jaloux, va, va. Va, jaloux, va, va. Va, jaloux, va, va. Va, jaloux, va, va. Jaloux, va, va.
Il avait l'habitude de jouer partout. Pendant les repas, même aux chiottes, on devenait fou. Il avait toujours sa guitare sous le bras. De chercher du boulot, il n'y pensait même pas. Le père pourtant l'avait bien sermonné, mais son chemin, lui, il l'avait déjà tracé. Oh, va,
va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Jeannot, sois bon.
Sa mère lui disait, un jour tu seras un homme et tu seras leader d'un groupe légendaire. Beaucoup de gens viendront loin à la ronde pour entendre ta musique au soleil couchant. Peut-être qu'un jour ton nom sera en lumière. Qui dira, Jeannot joue ce soir.
Va, 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 Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Va, Jeannot, va, va. Jeannot, sois bon.
Jeannot, sois bon, c'est ce que vous avez dit.
Ouais.
C'est
ça. Va, Jeannot, sois bon.
Moi, j'ai dit sans bon. Moi, j'ai dit sans
ah,
bon.
Ah, Jeannot, sans bon. Ouais, ouais. Donc, Johnny B. Goode, repris ici par les décodeurs et notre décodeuse, avec Olivier Magarotto qui s'est fait pousser une banane. dans les cheveux. Mais oui, vous jouez tellement bien le rock'n'roll. Il faut faire ça plus souvent, Olivier Magarotto. Nous avions dans l'ordre les passages chantés par Frédéric Gérard, Daniel Rosis, Thierry Omanence et finalement Sandrine Viglino. Qui, d'après vous, chantait le vrai couplet? Robert Bouvier.
J'hésite entre Thierry et Sandrine. Je dirais Sandrine.
Oui.
Vous savez que c'était des alexandrins quand il chante en alexandrin.
Des olorimes.
C'est dingue ça.
Oui, et Jeannot Sambon qui vous permet de marquer un 16e point alors que nous allons prendre quelques minutes pour faire le point sur les news. Voici les informations.
La première vous offre l'heure.
Sur RTS La Première, il est midi.